Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure avec un ou une artiste. On est ravis de recevoir Élise Chatoret.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-t-on qui court.
Marie Richeux avec Élise Chatoret.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Saint-Félix est un hameau français. 20 personnes y vivent à l'année, des personnes qui ont pour beaucoup en commun de venir d'ailleurs et d'y avoir trouvé un chez-soi. D'autres, plus rares, qui vivent là depuis très longtemps. Un maire, des chiens fous, des chiens monumentaux, le vent dans les arbres et la tombe d'une jeune fille morte mystérieusement. Babel est une compagnie de théâtre qui travaille avec le réel. Et le réel, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est passionnant. Élise Chatoret, à chaque fois, avec des membres différents de la compagnie, vous avez effectué plusieurs séjours à Saint-Félix et sur scène, en ce moment au 104 à Paris, les voix de ce petit hameau témoignent d'une vie loin des grandes villes, de l'agriculture, de ce que c'est qu'un original ou un marginal, mais aussi de ce que c'est que de faire du théâtre avec des vies que l'on rencontre. Saint-Félix, c'est le titre de votre dernière création. Bonsoir à vous, Élise Chatoret.
Bonsoir.
Ça se joue jusqu'au 23 mars, donc au 104 à Paris. Ensuite, c'est en tournée. On peut par exemple dire que ce sera au Théâtre de la Tempête à Paris du 26 mars au 14 avril dans la foulée et le 17 mai au POC à Alfortville. Il y aura de la suite ?
On espère, bien
bah
sûr.
Bah oui, voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite.
C'est en cours.
Je vais tout de suite les citer parce qu'ils sont quand même vraiment à la fois remarquables et importants. Justine Bachelet, Solène Keravis, Charles Zevaco et Emmanuel Matz, ce sont les comédiens et les comédiennes qui sont sur scène. On commence avec un extrait.
La première chose que je peux dire, c'est que mes deux parents sont enterrés ici. À la fin de sa vie, mon père n'a pas voulu retourner aux États-Unis. Il a attendu de mourir ici. Il voulait mourir à Saint-Félix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ici, à Saint-Félix, c'est le seul endroit où j'ai emménagé qui n'a pas de date de péremption. Où je n'ai pas vraiment besoin de m'expliquer, où je suis chez moi. Parce qu'ici, tout le monde a connu mes parents.
Ça fait bientôt 30 ans, 29 ans cet été que je suis là. Ici, c'est chez moi, mais c'est un chez moi qui me revient de quelqu'un d'autre.
Et on commence par ici, ce mot répété plusieurs fois et dans le noir, Élise Chatoret, puisque à la fois le public et les comédiennes et les comédiens sont plongés dans l'obscurité. Pourquoi est-ce que vous avez commencé comme ça ? Pourquoi tout le monde dans le noir ?
Peut-être pour raconter dès le début finalement le chemin qu'on a fait nous. C'est-à-dire que au commencement était le verbe et que on a commencé effectivement par interviewer des gens. Et que le travail, en tout cas au plateau, il a commencé avec des bandes-sons enregistrées qu'on a écoutées et qu'on a répétées, littéralement, quoi. On a répété ce qu'on entendait dans le casque, on a retravaillé presque en verbatim ces entretiens. Et puis, petit à petit, des corps sont apparus à force de répéter ces voix, puis un espace, puis des corps dans un espace, puis un décor, puis du son, puis de la lumière, comme si on repartait du néant originel ou d'une sorte de trou noir, de vide, pour aller jusqu'à la fin du spectacle où il y a un diorama, c'est-à-dire vraiment la carte postale imaginée de ce lieu qui est entièrement reconstitué sur scène. Donc c'est comme un chemin comme ça où on partirait de rien pour aller jusque-là. Et puis c'est aussi une façon évidemment de mettre l'écoute en premier, l'écoute.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas complètement rien.
Non.
En fait, ce qui se passe, c'est au contraire des oreilles très tendues.
Voilà, c'est ça. L'écoute avant tout sur les mots, puisque c'est quand même ça la source du travail. C'est ces entretiens qu'on fait avec des gens, et à partir de ces mots entendus, enregistrés, on va créer du théâtre. Donc finalement, c'est mettre le spectateur, voilà, encore une fois, à l'écoute très intensément. Puisqu'il n'y a que ça et qu'il n'y a pas d'image en même temps, et commencer ensemble sur cette chose commune. Quoi.
C'est facile à faire un noir plateau comme ça ?
Alors bon, ça va être un peu technique ce que je vais vous dire, mais c'était assez facile jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et on est un peu submergé par les normes de sécurité diverses et variées. Il faut laisser les issues de secours, etc. Donc non, c'est une petite négociation avec l'équipe technique, mais là je dois dire que l'équipe du 104 a été assez exemplaire, puisqu'ils ont accepté qu'on fasse un vrai noir pour les 10 premières minutes, et ensuite on remet les issues de secours, et c'était tout à fait précieux.
Parce qu'évidemment, ça change tout. Hein. Je vous pose cette question un peu technique parce que c'est un vrai noir plateau dans lequel on est plongé. Et donc, évidemment, il y a une perturbation de nos sens. En effet, on cherche. En fait, l'œil ne peut pas s'empêcher de chercher. Peut-être qu'il attend une apparition, il attend quelque chose. Puis on se laisse faire. Dans ces cas-là, on écoute et on écoute assez différemment. Et puis, quelque chose de la lumière arrive et on ne sait pas par où, et qui va dessiner des silhouettes pâles. Ça encore, c'était ce même geste-là, Élise Châteauret, de progressivement faire apparaître des choses comme elles vous sont apparues au travail.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, il y a toujours le double mouvement, quoi. Il y a deux fables en parallèle, quoi. Il y a la fable du processus, de comment on a construit ce spectacle, et puis la fable de ce village, de l'enquête, du document, de ce qui s'y passe, de la réalité. Mais les deux sont ensemble. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui s'est passé. On écoute des bandes. En fait, c'est étonnant, quoi. Dans le travail, parce qu'on commence, bon, on a commencé par aller à Saint-Félix, interviewer des gens, recueillir ces paroles contextualisées, c'est-à-dire avec un corps et dans un espace, elles racontent une certaine chose. Et tout d'un coup, ces paroles délocalisées absolument, c'est-à-dire écoutées ailleurs, avec d'autres gens, dans un autre contexte, tout d'un coup, il y a des pluralités de sens qui arrivent, qui sont vraiment très différentes, quoi. Et qui, effectivement, d'une certaine façon, font apparaître des gens, petit à petit, de façon très différente de ce qu'elles étaient au moment de l'enregistrement, telles qu'en elles-mêmes, à Saint-Félix.
D'ailleurs, on fait l'hypothèse que ces voix-là ne font pas apparaître les gens de Saint-Félix. Ils font apparaître autre chose, qui ne sont pas les messieurs et les dames que vous avez rencontrés là-bas.
Non, non, non. D'ailleurs, l'histoire, finalement, est racontée par quatre acteurs qui sont les quatre narrateurs et qui sont aussi les quatre intervieweurs. Et vraiment, la fable, finalement, est racontée par eux tout le temps. Donc si on doit être un peu prosaïque et si on devait vraiment rattacher ces apparitions progressives dans le noir, on dirait plutôt effectivement que c'est les quatre acteurs ou les quatre narrateurs qui apparaissent beaucoup plus que les gens de Saint-Félix.
En tout cas, les quatre corps qui vont porter par la voix, par le corps, par le visage, ce qui va se passer sur ce plateau. Alors si on rembobine, comment vous débarquez à Saint-Félix ? Parce qu'il y a quand même pas mal de hameaux en France, pas mal de petits hameaux, pas mal de petits hameaux qui comptent 20 habitants à l'année. Pourquoi celui-là ?
Alors, un peu par hasard. Alors, j'avais depuis longtemps vraiment l'idée comme ça que j'avais envie de travailler sur une petite localité. C'est un peu un fil rouge de mon travail, de travailler toujours sur le petit pour raconter le grand, d'avoir la sensation que c'est dans les choses qui apparaissent anecdotiques ou périphériques ou pas importantes, que finalement, souvent, se raconte, selon moi, pour moi, la société. Ça m'intéresse plus de prendre ce prisme-là. Et du coup, j'avais vraiment cette idée de me dire, tiens, prendre vraiment un petit endroit. Les critères que j'avais comme ça en tête, c'était un lieu très petit, loin d'une grande ville, loin des axes de communication. Et du coup, en me promenant en France, en fait, pendant des vacances, je tombe sur Saint-Félix et on y passe un petit peu de temps en famille, voilà, à un moment donné. Et en fait, je me dis, tiens, mais c'est... Alors, ce qui fait que finalement, c'est ce village-là et pas un autre, il y a deux choses principalement. La première, c'est que sur les 20 habitants du village, très rapidement, je m'aperçois que les deux tiers ne sont pas du tout de Saint-Félix. Voire en fait ne sont non seulement pas de la de originaire de là, mais même pas de la région et même pas d'autres régions en France, mais sont carrément du monde entier. C'est-à-dire que sur les 20 habitants, il y a un Américain, une Centrafricaine, un Néo-Zélandais, des Belges, des Anglais, une Marocaine, des Anglais, une Gabonaise. Alors la Gabonaise, en fait, c'était la Centrafricaine qu'on a transformée en Gabonaise. Okay. Et voilà. Et donc on est un peu. Enfin moi je trouve que cette hypothèse elle est géniale parce que ce Saint-Félix qu'on ne situera pas dans le spectacle et que je dirai pas où il est, c'est un secret absolument. Mais il y en a plusieurs en France, donc on peut pas le situer. Et finalement, peu importe évidemment. Mais il est pas non plus dans une région. Je veux dire, il correspond absolument à ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu à la fois très beau, mais très loin de tout. C'est pas une région incroyablement attractive ou je sais pas quoi. Donc c'était étonnant de se dire bon, alors on va aller voir ce que c'est que la France, la vraie France profonde dont on nous parle tellement, etc. Allons donc voir, et en fait de se rendre compte que la France, la vraie France, c'est en fait le monde entier, et même dans un tout petit village très loin des grands axes. Donc cette hypothèse là elle était super, parce que ça correspond vraiment en tout point justement à la démarche de dire tiens, si je prends une toute petite localité, qu'est-ce qu'il y a comme spécificités qui sont absolument vraies à une échelle plus grande, quoi. Donc ça c'était une des choses qui a fait vraiment qu'on s'est dit que c'était là. Et puis la deuxième chose dont vous avez parlé précédemment, c'est effectivement que dans le cimetière de ce petit hameau, on tombe sur une tombe d'une jeune femme née dans les années 80. Et donc l'enquête
est morte à 30 ans.
Et donc on se met à faire une enquête des vies comme ça. On était parti pour interviewer les gens sur la ruralité, leur mode de vie, pourquoi ils étaient là, comment ils étaient arrivés là. Bon, cette enquête a perduré, mais en fin d'entretien, à chaque fois, on termine en disant et alors est-ce que vous avez connu cette jeune femme et qui était-elle? Et donc on découvre que cette jeune femme donc a vécu dans ce hameau, dans la maison de sa grand-mère, que elle a fui un peu quand même une vie citadine qui lui était un peu destinée, et que elle a voulu comme certains dans d'autres années élever des chèvres, faire du fromage et mener une vie un peu marginale ou en tout cas elle a vraiment essayé quelque chose, c'est-à-dire que elle a fait une vraie tentative, elle était même plus que bio, ils étaient avec son compagnon et puis une autre personne et ils essayaient vraiment d'avoir une vie communautaire très loin des supermarchés, sans téléphone, sans internet. Mais ils avaient lu plein de bouquins. De ce qu'on a perçu vraiment, ils avaient travaillé, quoi. C'était pas juste des allumés bobos ou je sais pas quoi. C'était vraiment, ils essayaient quelque chose de l'ordre d'une utopie, d'essayer de faire autrement, quoi. Dans ce petit village où il y a quand même une moyenne d'âge assez élevée et où finalement c'était quand même la seule jeunesse du village. Et on s'est passionné en fait pour le dessin de cette jeune femme en ayant la sensation vraiment que c'était une forme de figure de ce que pouvait être un trentenaire aujourd'hui, quelqu'un qui essaye de faire autrement dans cette société-là parce que c'est irrespirable, parce que ça lui convient pas du tout, parce que c'est pas possible pour elle, et qui en même temps ne va pas vraiment trouver comment faire, ne va pas non plus forcément être énormément soutenue par les gens autour. Ça raconte aussi pour nous d'une certaine façon une société qui sait pas toujours non plus quelle place donner à sa jeunesse, quelle place lui donner pleinement, c'est-à-dire en la prenant au sérieux, en l'accompagnant. Finalement, elle représentait quand même une vraie forme d'alternative et de possibilité aussi pour ce hameau qui se vide petit à petit.
Bien en dehors de la place qu'elle occupe très spécifiquement dans ce hameau-là, c'est-à-dire que on n'en saura pas beaucoup plus sur cette figure qui s'appelle Lucie dans votre spectacle, Élise Châteauret, mais on se rend compte petit à petit que vous en faites une sorte de, oui, figure archétypale qui, là, décide d'aller élever des chèvres et de faire du fromage, mais qui pourrait décider, je sais pas, de monter un mouvement politique ou une COP dans sa ville. C'est-à-dire qu'on sent que c'est l'élan que vous voyez sacrifié dans la peut-être l'échec et ou la mort de Lucie.
Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est là où vraiment, je pense qu'on... On l'a vu, nous, comme une figure de quelque chose. C'est-à-dire, quelle alternative possible aujourd'hui, quand on a 30 ans, si ce monde-là ne nous convient pas, si la course au profit ne nous convient pas, si on n'arrive pas... Parce que ce qu'on a compris aussi en enquêtant sur elle, c'est que, oui, voilà, vraiment, la société telle qu'elle était, elle n'y arrivait pas. Donc, elle a vraiment cherché à faire différemment. Et en même temps, voilà, ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché, ça veut pas dire, j'espère et je crois pas du tout que ce soit un spectacle d'échec ou qui raconte l'impossibilité d'un autre monde. Il raconte une tentative qui n'a pas abouti. Il n'y a pas de happy end. En même temps, à la toute fin du spectacle, il y a son compagnon de l'époque qui raconte le chemin qu'il faisait avec leurs chèvres dans la montagne. Il n'est pas revenu depuis très longtemps et il se promène et puis il dit « Regardez, l'herbe, elle a repoussé, tout a repoussé. C'est incroyable comme ça y est, les chemins, il y a des herbes hautes. » Et on y voyait, nous, beaucoup l'idée comme ça de la vie qui continue, en fait, malgré tout. Et il y a quelque chose qui continue, qui se poursuit absolument. C'est comme un état à un moment donné de là où on en est, en tout cas. Voilà.
Mais après, ce serait pas la même chose si, en effet, son initiative n'avait fait que échouer à cette Lucie. Elle meurt quand même. C'est une tombe. Et je trouve, puisque vous disiez tout à l'heure, on s'est beaucoup attaché aux mots. Et je trouve ça assez éloquent, le fait que le spectacle commence par décider de mourir ici. Il n'est plus du tout question d'elle. Mais d'un seul coup, c'est les premiers mots qu'on entend. On est dans le noir et puis la question qu'on pose, c'est où est-ce qu'on veut mourir? Qu'est-ce que c'est que mourir dans un endroit? Si bien qu'au-delà de tout ça, Élise Châteauret, on a aussi l'impression que ça questionne ça. Mourir quelque part.
Être quelque part. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est vrai, un lieu... partir d'un lieu, d'une localité, c'est vraiment questionner ça, questionner un endroit où il y a des éphémères comme ça de vie qui passent, quoi. Et à un moment donné, effectivement, être chez soi et y avoir été chez soi, ça passe aussi par le fait d'y mourir ou d'y être. C'est vrai que c'est très intéressant cette remarque notamment de l'Américain qui vient absolument pas de là, qui a un accent américain à couper au couteau et dont les deux parents qui ont acheté une maison là longtemps avant que lui y vive ont vraiment voulu mourir là, ont voulu être enterrés là.
Et ça avec des concessions prises pour l'éternité.
Voilà, c'est ça. Alors que c'est absolument pas là où ils sont nés, etc. Ça, évidemment, ça fait écho aussi à plein de questions sociétales qu'on connaît, la question de la sépulture et de la possibilité tout d'un coup de dire que c'est là qu'on veut être enterré pour toujours. C'est vrai que c'est étonnant comme cette question-là de la mort, elle est très proche de la question du chez-soi, en réalité.
C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire des entretiens. Disons, au fond, j'aime bien les gens. Voilà, j'aime bien les gens et je veux dire que il y a une satisfaction extraordinaire à communiquer, à entendre les gens. Je pense que souvent je me demande à quoi sert ce que je fais. Je crois que parfois j'ai un sentiment de donner un tout petit peu de plaisir aux gens avec qui je parle. C'est-à-dire ils sont contents de parler. Et je crois que souvent ils me remercient à la fin et c'est pas simplement de la politesse. Je crois qu'il est capital qu'il y ait des gens qui essaient de faire parler ceux qui ne parlent pas et ne serait-ce que pour obliger ceux qui ne parlent pas à parler contre ceux qui parlent. Bon, ça, je pense, ça serait très important. La démocratie se porterait mieux si les gens qui sont parlés prenaient la parole contre ceux qui parlent. Je pense, par exemple, que ce qu'on appelle les intellectuels, souvent avec deux paires de guillemets, on parle à tort et à travers, en particulier du monde social. Et, par exemple, une des seules fonctions que je m'assigne, c'est de rendre la vie difficile à ceux qui parlent. Bon, je cite souvent une phrase de John Cage, le musicien, qui dit à qui on demandait « Mais pourquoi faites-vous de la musique ?» Ils disaient « Pour empêcher les autres d'en faire. » Moi, très souvent, je pense que un de mes rôles, c'est de parler du monde social pour rendre la vie difficile à ceux qui en parlent.
Est-ce que c'est un monde qui a beaucoup changé ? comment vous expliquez qu'à Saint-Félix, il y avait 60 agriculteurs il y a 50 ans et que maintenant, il n'y en a plus que 3 ? De quoi tu parles quand tu dis que c'est très grave ce qui se passe pour l'agriculture ? Vous pensez que vous êtes les derniers ? Et qu'après vous, il n'y aura plus d'agriculteurs ? Toi, tu penses que ce serait possible qu'il n'y ait plus du tout d'agriculture en France ? Alors c'est quoi la continuité ? Est-ce que tu penses que ton fils pourrait reprendre ici ? Ce serait un tournant énorme. Non ? Vous connaissiez Lucie ?
Imagine-toi ici, dans 50 ans, c'est comment ? Enfin, on joue au médium. Qu'est-ce qu'on va perdre et qu'est-ce qu'on va gagner ? Il faudrait être des nouveaux Indiens ? Il y a quelque chose qui s'accélère. Tu crois que ce sera qui, du coup, les gens qui vivront là ? Est-ce qu'il y aura beaucoup de Chinois ? C'est une apocalypse, presque, dont tu parles. Mais il y a quand même des jeunes qui essayent de faire autrement.
Élie Châteauret, un extrait de Saint-Félix. Tout à l'heure, vous avez dit, finalement, il y a deux fables dans ce spectacle. Il y a ce Saint-Félix qu'on raconte en recomposant, on en parlera tout à l'heure, les lieux, les voix, les corps. Et puis, l'autre fable qui est de raconter ce que nous avons fait, nous. C'est-à-dire aller dans un endroit, poser des questions et se démerdouiller avec ça pour faire du théâtre. Et on entendait juste avant une archive de Pierre Bourdieu au micro de Jean Lebrun en 1992 à Culture Matin, qui parlait de ce que c'est que de mener des entretiens et du plaisir que non seulement il en retire, mais qu'il semble partager avec celles et ceux qu'il interroge. Alors évidemment, Saint-Félix, votre spectacle, c'est clairement aussi un spectacle sur qu'est-ce que c'est que de poser des questions à des gens. Du coup, je vous la retourne. Qu'est-ce que c'est que de poser des questions à des gens, Élie Châteauret ?
Bah, c'est très beau la citation de Bourdieu, ça me touche beaucoup moi ce qu'il dit, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai énormément de plaisir à faire des entretiens. C'est un peu rigolo comment ça s'est passé, quoi, de à un moment donné de commencer à faire cet exercice de façon complètement empirique.
C'est pas la première fois que vous travaillez comme ça.
Non, ça fait longtemps, ouais, ça fait très longtemps même. Mais c'est un peu empirique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai pas du tout une formation ni de journaliste, ni de scientifique, ni de sociologue. Et par contre, je suis passionnée par cette forme, quoi, d'être dans une pièce avec des gens et d'avoir tout d'un coup tout le temps qu'on veut. Ça, c'est très important. Et puis un magnéto sur la table.
Et le tout le temps qu'on vous accorde.
Tout le temps qu'on m'accorde, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, que moi, j'ai pas de contraintes. Je viens pas ni pour chercher des réponses précises. Je sais pas ce que je viens chercher. J'ai pas d'objectif. J'ai pas de nécessité de résultat, en fait. C'est une différence un peu avec le sociologue ou le scientifique qui peut avoir éventuellement une petite idée de ce qu'il vient chercher. Moi, je sais pas. Et donc, c'est vraiment une façon de rencontrer les gens, une modalité en réalité. Donc, par exemple, à Saint-Félix, ça donne, voilà, par exemple, des granges avec des agriculteurs, des fermes, où tout d'un coup, vraiment, on va taper à la porte, parce que souvent, donc à Saint-Félix, on y a été toujours minimum par deux, maximum par trois avec les gens de l'équipe. Et donc, c'est frappé à des portes où il y a des agriculteurs qui nous attendent pas du tout. Évidemment qu'on n'a pas appelé avant et on est devant la porte et on n'arrive même pas à la pousser la porte parce que vraiment la femme l'agricultrice elle reste devant la porte et on voit dans l'entrebâillement que les hommes derrière sont à la cuisine, que c'est la pause et que quand même ça les arrange pas, enfin que c'est pas gagné du tout qu'on rentre dans cette pièce et là devant cette porte commence une explication hasardeuse sur pourquoi on est là, pourquoi, alors comment on fait du théâtre, mais alors vous voyez un peu ce que c'est le théâtre. Tout le monde fait du théâtre, mais on fait ça à partir d'entretiens. Est-ce que éventuellement on pourrait rentrer ? Mais alors du coup, est-ce que vous êtes journaliste ? Est-ce que vous travaillez pour la télé ? Est-ce que vous allez filmer ? Non, on voudrait juste parler avec vous. Et puis finalement, quand même, on nous ouvre la porte. Et là, on va passer 4 heures, en fait, à discuter. Et ce qui est très beau, c'est dans cette forme de l'entretien que je pratique, c'est que finalement, c'est une façon de rencontrer des gens qu'on ne devrait pas rencontrer, en fait. C'est-à-dire que souvent, quelquefois, quand je réfléchis à ce que c'est que l'art, je me dis, bah, c'est quelque chose qui nous déplace à un endroit, quoi. Qui crée des petits ou des grands déplacements. Et finalement, l'entretien que je pratique, je me dis, c'est un entretien artistique, dans le sens où quelque part, quand on ressort de part et d'autre, on a été déplacé, quoi. C'était pas prévu du tout qu'on se parle, ces gens-là et nous.
Vous, un peu plus que eux?
Peut-être, mais en même temps...
Vous savez que ça va peut-être arriver. Eux, ils savent qu'ils ont entamé une journée de travail et vraiment, ils ne vous voient pas venir. Sauf si une rumeur circule dans le hameau que y a des zigotos qui font du théâtre et qui veulent poser des questions.
Oui, c'est vrai, peut-être. En même temps, moi, je suis vraiment pas sûre qu'ils vont m'ouvrir la porte et que ça va être possible. Et j'ai le trac devant la porte et je me dis que c'est vraiment pas gagné du tout, du tout. D'ailleurs, des fois, on nous ouvre pas la porte.
C'est une bonne guerre.
Absolument. Mais bon, c'est vrai que vous avez raison dans le sens où c'est quand même nous qui sommes moteurs ou qui décidons, qui entamons en tout cas la démarche, qui la provoquons, quoi. Mais quand même, c'est toujours incroyable, quoi, de passer comme ça autant de temps avec des gens, alors qu'on est dans des mondes tellement différents, et de se donner les uns aux autres, voilà, ces heures et ce dispositif, c'est-à-dire que ça ne pourrait, ce qui se dit à ce moment-là est, d'après moi, souvent quand même très beau. Le scénographe de la compagnie Charles Chauvet, il dit c'est un exercice qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est quand même un très bel exercice de tolérance ou en tout cas ça rend beaucoup plus intelligent, beaucoup plus humaniste. Paradoxalement, en fait, dans tous les gens que j'ai interviewés depuis que je travaille comme ça, ça fait une petite dizaine d'années, ça m'est très rarement arrivé de me dire quelle bande d'abrutis. C'est-à-dire que quand on passe vraiment du temps avec quelqu'un, en fait, 3-4 heures, et ben finalement, il y a toujours un moment où on se dit oh là là, mais cette personne, elle est passionnante, quoi. Elle est hyper intéressante. Ça fait tomber comme ça les préjugés, les choses qu'on penserait un peu facilement. Ça, il y a de la maïeutique dans cet exercice aussi. C'est-à-dire les uns aux autres, on se dit des choses qu'on ne savait même pas qu'on pensait. Mais c'est un rapport de grande réciprocité, c'est-à-dire que c'est pas du tout... nous aussi, on sort profondément transformés, et nous aussi, on se découvre dans les yeux de ces agriculteurs, par exemple, qui nous regardent comme... On arrive, on est des Parisiens, théâtreux, enfin, on est quelque chose dans leurs yeux, et puis eux aussi, ils sont quelque chose dans nos yeux, et puis ça bouge pendant le temps de l'entretien.
Est-ce qu'il faut être très très au clair sur ce qu'on fait quand on fait ça, ou est-ce que au contraire être un peu flou et tout à fait prompte à l'improvisation ou pas trop savoir ce qu'on fait, c'est ok?
Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même être très plutôt dans l'impro, c'est-à-dire
l'un n'empêche pas l'autre.
Ouais, dans une grande disponibilité de. Faut être dans une grande disponibilité de d'accueillir ce qui va se passer et d'être absolument généreux dans la rencontre, en fait, de vraiment être à l'écoute de la personne en face. Mais en fait, après, oui, le reste, c'est que du moment présent. C'est pour le coup, là encore, c'est drôle parce que cet exercice qui apparemment n'a rien à voir avec le théâtre est très proche. C'est-à-dire que c'est du présent pur. C'est se laisser traverser par une rencontre. Là, c'est pas le public, c'est quelqu'un avec qui on a un entretien, et se laisser complètement dériver parfois, mais juste parce qu'en fait, c'est l'intuition. Moi, je poursuis comme ça dans mes questions, dans la rencontre, l'intuition comme ça d'une volonté de comprendre la personne qui est en face de moi profondément, très très intensément. Et c'est ça qui me meut, et donc finalement, ça se prépare pas. C'est un état. Je me prépare à être dans un état, mais je prépare pas des questions, quoi, par exemple.
Et c'est tellement important, Élie Chateauret, que ça fait partie de ce qu'on voit sur scène. C'est-à-dire qu'il y a, j'aimerais ne pas trop dévoiler la surprise, mais bref, il y a un moment donné où vous vous mettez en scène précisément en train de faire ça, et d'une manière rigolote, humoristique. Et puis il y a aussi clairement une façon de presque diviser le temps du spectacle entre un moment où on n'entend que des réponses et un moment où on n'entend que des questions. Ce qui a fait aussi que ça traverse les corps des comédiennes et des comédiens de manière différente. C'est pour dire qu'il y a une égalité entre tout le monde.
Ouais, exactement. C'est exactement ça qu'on s'est raconté. C'est exactement ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est travailler sur l'horizontalité du rapport. En fait, ça nous allait pas de se dire si on va faire un spectacle en reconstituant uniquement les paroles des gens qu'on a entendus. Il fallait que nous, on se mette en jeu quelque part.
Tout de suite.
assez rapidement dans le travail, en fait. On s'est dit, sinon c'est bizarre, quoi, en fait. C'est, effectivement, on traduit pas du tout
la situation.
La situation et effectivement l'égalité du rapport. On n'est pas moins risible, on n'est pas moins couillon, on n'est pas moins attachant. On est, en fait, c'est des groupes de personnes qui se rencontrent et j'ai un peu l'hypothèse aussi qu'à un moment donné, finalement, qui est qui, peu importe, quoi. Voilà.
Oh, d'ailleurs, c'est exactement le jeu que, enfin, qui commence un peu à s'installer. C'est-à-dire qu'au-delà de la division, au départ assez claire, petit à petit, ça circule, on sait plus qui parle, même dans un couple de comédiens qui questionne, est-ce qu'on est du côté de la question ou de la réponse, voilà. On sent bien qu'à un moment donné, c'est peut-être plus la question.
Voilà, absolument. Ouais, c'est ça.
Un ange passe, marchant comme sur la lune. Comme une plume qui laisserait des traces. Un ange passe, portant sur ses épaules les rêves de ses parents, vêtements, prénoms, et j'en passe. Un ange passe, appelle au secours. Au milieu des sourds, puis disparaît en l'air, au milieu des colères. Un ange passe, comme un express dans une gare, découpant avec ses phares des fenêtres dans la nuit. Un ange passe à la télé ou au journal, entre deux célébrités. Peut-être a-t-il mal, peut-être a-t-il mal. Démarche maladroite et se prend les ailes dans les décors en carton-pâte.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Edith Châteauret.
La scénographie, nos scénographies, les scénographies qui sont finalement le modèle scénographique qui est à l'œuvre depuis la première pièce que j'ai créée en 1991. Qui s'appelait le théâtre. Ce principe, c'est un principe plutôt qu'un principe décoratif, c'est un principe d'effacement. C'est un principe de remise au degré zéro de l'espace. C'est un balayage des parasites de l'espace. C'est, on pourrait dire aussi, c'est une façon de masquer la boîte théâtrale et de recréer un espace vide, une coquille vide, un espace du neutre. Et à partir de ce neutre, c'est reconstruire la réalité. Une réalité matériel, une réalité concrète et des réalités mentales. Un espace qui puisse à la fois recevoir le réel et l'espace mental. Donc, un espace très très ouvert, vide, occupé par la présence des acteurs, la lumière, configuré par la lumière, si je puis dire, plutôt qu'habité, et prolongée par le son.
Joël Pommerat, dans les entretiens qu'il donnait à voix nue au micro de Joël Gaillot en 2013 sur France Culture. Élie Chateauret, peut-être pour parler du plateau. Tout à l'heure, vous avez dit « si tout commence dans le noir avec les voix des comédiennes et des comédiens, c'est pour commencer à zéro, c'est pour commencer dans l'origine, pour raconter ce qu'on a traversé, nous. » Et en fait, tout commence dans le noir, mais tout ne reste pas du tout dans le noir. À l'instant, Pommerat parle de sa vision de l'espace. Vous, vous l'avez imaginé comment, cet espace-là, cet espace de la scène pour Saint-Félix ?
Bah, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de se demander pas à pas comment on avait, nous, travaillé, c'est-à-dire comment on part de ses voix, on repart de ses voix, et puis petit à petit, les acteurs se mettent à incarner, leur corps se met en jeu. Avec les corps, il y a un espace qui arrive. Avec cet espace, il y a des premiers sons. Avec ces premiers sons, il y a des premières lumières. Avec ces premières lumières, il y a des premières maisons. Dans ces maisons, il y a des histoires.
Des maquettes,
des petites maquettes presque d'architectes, quoi. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, enfin, la première chose qui arrive, c'est un sol vert avec des bruits d'oiseaux. Une fois qu'on est sorti du noir et que les acteurs sont apparus, et puis petit à petit, voilà, on va mettre des petites maquettes, comme si on reconstituait, comme ça, en se disant, alors là, il y avait ça. C'est exactement ce qu'on a fait, en fait, hein, de se dire, on a fait des dessins avec la carte de Saint-Félix qu'on a reconstituée, en disant, là, il y avait la maison de machin, là, il y avait la maison d'un tel, il y avait la maison d'un tel, et donc on invite le public, finalement, pas à pas, à être dans un rapport, lui aussi, d'égalité avec nous. Un rapport le plus simple possible, de dire, bah voilà, on a commencé comme ça. Et donc, au début, il y avait des petites maisons. Et puis après, il y a les histoires qui naissent des maisons. Et puis après, il y a les corps. Et puis après, il y a les sons. Et puis après, il y a de la nature qui arrive. Des premiers buissons, des premiers arbres. Le bruit, les sons qui vont avec. Et puis, petit à petit, il y a une toile peinte qui arrive. Et le diorama, l'image complète de ce Saint-Félix imaginé ou rêvé ou réel se reconstitue. C'est vraiment, on part d'un plateau nu et on va aller jusqu'à l'image entièrement reconstituée. Mais c'est vraiment le comme si vraiment on prenait le spectateur avec nous, quoi, qu'on lui disait, bah voilà, on, humblement, avec nos petits moyens, effectivement, d'ethnologues amateurs. on va re-questionner depuis le début ce que c'est qu'un petit village en France et puis ce que c'est que le théâtre. Et on va faire les deux en même temps, avec nos petits moyens, main dans la main avec vous, tout doucement, pas à pas. Voilà, et je veux quand même dire aussi que cette scénographie, elle a été inventée par Charles Chauvet, qui a eu quand même... voilà, la brillante idée de proposer quand même cette idée du diorama, et que, bien évidemment, un dispositif comme ça, ne s'invente pas toute seule, mais s'invente évidemment avec une équipe, et en particulier, du coup, avec ce scénographe.
Et est-ce que ça a créé, entre autres, c'est des rapports d'échelle chahutés et chahutants, puisque les corps des comédiens, qui ont des corps tout à fait échelle normale, de gens tout à fait normaux, ils circulent autour de maquettes, voilà, qui sont des toutes petites maisons, donc qui sont aussi géants. Et pourtant, quelque chose fait que ça n'est pas non plus extrêmement bizarre. C'est-à-dire que la manière dont, je sais pas, ils se déplacent, ou peut-être la manière dont vous avez donné des indications de jeu, Élie Chateauret, ça fait que bah, leur maison, c'est quand même leur maison, ou les maisons depuis lesquelles ils parlent, c'est quand même des maisons, et on n'a pas l'impression de géants au milieu de maisons en carton. Si bien que je me suis dit qu'il y avait un travail d'échelle qui avait été en jeu dans votre travail de théâtre, mais dans les deux sens. Et par contre, parfois, ben, il y a des colères qui prennent des aspects d'orages monumentaux, où il y a des chiens qui, d'un seul coup, on a l'impression que c'est des cerbères qui sont prêts à nous tuer, alors que c'est peut-être juste des chiens fous qui sortent d'une ferme. Alors, comment vous êtes amusé avec tout ça?
Ça, je dirais que c'est vraiment le travail du plateau, en fait, hein, qui arrive, et on donne de la matière à des acteurs, et puis ils s'en emparent. Et effectivement, il y a des choses... quelque part, encore une fois, on travaille beaucoup sur des choses qui ont l'air toutes petites, tout à fait anecdotique, mais en fait effectivement tout est dans la question du traitement de ces petites choses.
Par exemple,
des voix au début, des quelqu'un qui va raconter l'histoire de sa maison et qui va la raconter effectivement de façon très simple, et c'est une toute petite chose, voilà, elle raconte juste que cette maison on lui a présenté, que c'est l'agent immobilier qui lui a donné, qu'elle est très contente de vivre là, mais que là en ce moment elle a des problèmes, qu'elle se sent plus très bien et que peut-être qu'elle va la vendre quand même, et elle va raconter l'histoire de sa maison, et en racontant l'histoire de sa maison elle va raconter sa vie à elle, des fermiers qui vont raconter des toutes petites anecdotes sur le nombre d'enfants qu'ils ont eu, sur comment ça s'est passé, enfin des petites bribes comme ça de la vie, se réfugie comme ça dans des choses parfois vraiment absolument anecdotiques, et c'est souvent finalement dans ces choses anecdotiques que se disent les choses les plus profondes, les plus fortes. Alors par exemple l'histoire des chiens, c'est étonnant que vous parliez de ça, parce que c'est un village où il y a un jour il y a quelqu'un qui nous a dit, en fait, de toute façon ce village c'est que des petits vieux qui veulent leur petit confort et des chiens et leurs chiens. Et tout d'un coup, c'est vrai que les chiens, en fait, c'est omniprésent. Ils ont tous des chiens, et c'est la question de le chien qui va dans le qui va chez le voisin, qui est copain ou pas avec le chien de la voisine. Et du coup, c'est vrai que les chiens, bah, ça a l'air de rien, mais c'est aussi une façon très concrète de pas. Je pense que ça évoque comme ça immédiatement ce qu'est un village français. Voilà. Après, c'est des petites remarques chez les doyens. On arrive sur tout d'un coup au détour d'une conversation. On est dans un entretien avec deux petits vieux adorables qui nous offrent le thé, qui nous donnent un petit gâteau, et puis au détour d'une conversation, mine de rien, vraiment, on sait même pas d'où c'est venu, il y a une remarque absolument raciste d'une violence inouïe qui apparaît. Et ça, évidemment, on l'a conservé, on l'a traité. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on essaye de garder dans cette masse d'entretiens, parce qu'il faut quand même imaginer que 20 entretiens, ça fait quand même quelque chose comme 2000 pages, donc c'est énorme de classifier cette matière un peu comme un réalisateur sur un banc de montage qui titre un peu tout ce qui apparaît dans
avec
cette matière.
Avec une exigence de quoi? De rendu du réel, de quelque chose, de traduire une forme de vérité de ce que vous avez rencontré à Saint-Félix. Comment est-ce que vous avez choisi?
Ce qui nous guide vraiment, on commence vraiment par une chose très méthodologique, qui est vraiment de prendre chacun des entretiens, de les titrer pour comprendre un peu ce qui s'est dit. Là, on observe en général des récurrences, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes effectivement récurrents d'un entretien à un autre. Comme les entretiens, finalement, si on le traite théâtralement, ça donne que des monologues. Il y a des choses qu'on met en dialogue aussi. On a regroupé tout ce qui concernait Lucie, regardé comment ça pouvait dialoguer, et après qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas, qui est la grande question, parce que là, vous voyez un spectacle d'une heure et quart, je pense qu'avec la matière qu'on avait, on aurait pu faire un spectacle de 6 heures, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va garder ça et pas autre chose? C'est que on se dit, tiens, est-ce que cette chose-là, qui a l'air anecdotique, encore une fois, elle peut être universalisable, elle peut faire écho? Nous, par exemple, évidemment, on a gardé le racisme, parce que profondément, quand même, il y a un endroit où on pense que la société française, elle est structurellement raciste, et que donc le racisme de ces petits vieux, il faut qu'il apparaisse quelque part, parce que c'est une réalité. La question du rapport à la mort, la question du rapport
aux marginaux,
etc. Tout ce qu'on a gardé, c'est ce qui nous semblait pouvoir être signe et figure, et faire signe et faire figure, et donc on part du tout petit pour parler du très grand. Donc c'est vraiment ça la motivation, et le traitement dont vous parlez, de grossir certaines choses ou de traiter petit, c'est du ludisme, c'est du jeu, mais ça participe du même principe, c'est-à-dire parfois pour qu'une petite chose fasse sens ou devienne signe, il faut la traiter telle que, de façon très réaliste, très petite. Parfois il faut la grossir, parfois il faut, enfin là c'est là où vraiment justement le travail du réel au théâtre, c'est un travail de transformation, c'est un travail de, il y a des processus, quoi. Il faut soit on grossit, soit on amenuit, soit on décale, soit on fait un personnage avec 4 personnages qu'on a entendus. Donc il y a tout le temps un travail de traitement, en fait, énorme. Le réel, il apparaît jamais au théâtre enfin c'est une chose qu'on expérimente, hein. Je dis ça, c'est pas une grande leçon. Leçon numéro un sur le réel, non pas du tout, c'est juste un truc au fur et à mesure des spectacles on a découvert de façon empirique, c'est que finalement pour que le réel apparaisse, il demande forcément un travail de formalisation très important. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'adore ce matériau-là, c'est que c'est une façon de réinterroger tout le temps le théâtre, de se demander comment il fonctionne, qu'est-ce que c'est comme médium. On est obligé.
Par exemple, ça passe notamment par le jeu de vos comédiennes et comédiens qui se retrouvent à porter plein de mots, de tirer de plein d'entretiens dont on ne connaît pas les provenances, nous, en tant que spectatrices et spectateurs. Et alors, d'un seul coup, ils teintent leur corps de manière imperceptible, ou il y a quelque chose en eux qui se transforme, je ne sais pas comment, ou un peu de leur voix, et qui fait que quand même, nous, on est en mesure de se dire « Ah, c'est un habitant différent, c'est une habitante différente, c'est quelqu'un qui habite plutôt là dans le village. » Enfin, ils réussissent à se laisser traverser par des grandes singularités.
Oui, c'est un travail vraiment délicat. C'est-à-dire que si, encore une fois, on était vraiment dans l'idée réaliste, alors voilà, tu vas te transformer, tu vas faire un paysan de 80 ans, enfin, je vais prendre un acteur de 80 ans qui va faire... ça serait un autre travail. Là, c'est vrai que c'est vraiment l'idée que ces quatre personnes qui pourraient être les intervieweurs qui ont été et qui, pas à pas, comme ça, reconstituent une parole et se laissent traverser et transformer par elle en voyant ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui opère et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça, et c'est une invitation au public, évidemment, lui aussi, d'imaginer une seconde, si moi je disais ces paroles-là, si moi j'étais à cet endroit-là, comment, ça devient très accessible, en fait. L'autre n'est pas une figure très lointaine, avec un costume et une voix, et je sais pas quoi. Ça devient quelqu'un comme ça. C'est comme une épreuve, au sens propre, quoi. On éprouve ce que c'est que de dire la parole de quelqu'un d'autre.
Mais justement, il n'y a pas très longtemps, dans l'émission La Dispute d'Arnaud Laporte sur France Culture, il était question, c'était un petit salon qui était mené par Lucille Comeau sur la place du témoignage dans le théâtre contemporain aujourd'hui, et c'est vrai qu'il apparaît sous différentes formes. Et hier, en regardant votre pièce, Élie Châteauret, je me suis dit, tiens, c'est une autre facette de la possibilité du témoignage. Et est-ce que vous utiliseriez ce terme-là? Par exemple, c'est pas du tout quelqu'un qui a vécu à Saint-Félix qui vient témoigner sur scène. C'est très différent. Pourtant, est-ce que ça reste du témoignage pour vous?
C'est une bonne question. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais que moi, j'aime pas trop dire que je fais du théâtre documentaire. Je préfère dire documenté. En même temps, là, par exemple, il y a des habitants de Saint-Félix qui vont venir voir le spectacle. Et quand je parle d'eux, je parle des témoins. ou des gens qu'on a entretenus, mais c'est vrai que la dernière fois je me suis entendu dire ça. Donc non, je sais pas si c'est j'ai l'impression quand même que le mot que je préférerais, moi, c'est plutôt l'entretien. En fait, cette idée d'entretien, de transformation de l'entretien, un rapport à l'oralité, à la parole de tout un chacun, aussi un amour comme ça de la parole voilà, de quelqu'un qui n'est pas exceptionnel ou apparemment exceptionnel.
Après, il témoigne de quelque chose. Il témoigne d'un monde, on l'entendait dans l'extrait, d'un monde rural, loin des villes, d'un certain tournant pour l'agriculture, d'une certaine difficulté d'être et d'invention, donc il témoigne quand même.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est absolument des témoignages. Je sais pas pourquoi, c'est pas le terme que j'emploie.
Mais non, mais c'est peut-être parce qu'il y a un décalage qui est intéressant et important.
C'est vrai que c'est peut-être parce que dans le mot témoignage, il y aurait plus une valeur éventuellement de, encore une fois, de, je sais pas de vérité, mais une chose un peu peut-être plus scientifique ou plus voilà, je vais vous donner cette valeur là vous allez venir témoigner de quelque chose. Or, dans le protocole que je mets en place avec les gens, je leur demande pas ça, en fait. Ça témoigne de la rencontre qu'on a eue ensemble, voilà. Et de fait, vous avez raison, ça fait signe d'une société. Voilà, c'est intéressant, je vais réfléchir à cette question.
On a une grande marge de manœuvre, les marionnettistes. On n'est pas, contrairement à l'acteur, là, si on est dans le vif du sujet, là, puisque la marionnette peut être plus petite, puisqu'elle est légère, plus légère, elle peut être plus grosse aussi, on a un choix de proportion infini. Le changement de proportion, c'est déjà le luxe du marionnettiste depuis le Moyen-Âge. On peut faire une petite marionnette qui a l'air d'être très loin, on peut en faire une très grosse qui est un gros plan, on peut l'élever en l'air facilement, au bout d'une perche, au bout de fil. Là-dessus, on a une marge de manœuvre absolument extraordinaire. Si bien que je dirais qu'en fait, si la marionnette est contemporaine, c'est surtout, à mon avis, dans l'utilisation de l'espace qu'elle permet et dans les rapports de force de l'espace qu'elle peut signifier, qu'elle est intéressante.
Avec Bach, juste après, la voix d'Émilie Valentin, toujours au micro de Joël Gaillot, qui parle de l'art de la marionnette. Je le disais, Lichetorette, dans Saint-Félix, il y a une apparition, mais j'ai pas du tout envie qu'on en parle, de marionnette. Et puis il y a une apparition finale d'une marionnette à taille humaine, manipulée par plusieurs, par tous les comédiens, et qui serait la représentation du compagnon, de l'ancien compagnon, de cette fameuse Lucie, décédée à 30 ans et villageoise pour un temps à Saint-Félix. Et d'un seul coup, c'est un enregistrement qu'on entend, alors on ne sait pas si c'est la vraie voix de ce compagnon ou si c'est une autre voix. En tout cas, ce qu'on se dit, c'est que lui, eh ben lui, il fallait une marionnette. Pour lui. Pourquoi ?
Bah, chacun peut imaginer ce qu'il a envie. Nous, ce qu'on s'est raconté avec la marionnette, c'est que c'est vrai que la marionnette, c'est un rapport... C'est vraiment un rapport très fort à la mort, en fait, aux fantômes. C'est extraordinaire, parce que cette marionnette dont vous parlez, c'est une marionnette Bunraku, donc c'est des marionnettes japonaises à la base, donc à taille humaine, vraiment. Et à chaque fois qu'elle était assise dans un coin de la salle de répétition, les gens qui rentraient avaient peur, ou même le matin, des fois, j'arrivais très tôt, avant tout le monde, j'ouvrais la porte, j'oubliais toujours qu'elle était là, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. La femme de ménage qui nettoyait la salle de répète, elle avait peur. C'est étonnant, c'est vraiment une présence, tout d'un coup, qui arrive.
Je me suis demandé qui l'avait fabriquée.
Eh ben, c'est Lou Simon, voilà, qui a fabriqué toutes les marionnettes du spectacle, puisqu'il y en a d'autres à un autre moment, et qui est une marionnettiste manipulatrice et constructrice qui a travaillé avec nous pour ça. Et du coup, donc voilà, il y a comme une chose comme ça, où comme on tourne autour de cette idée de la présence-absence, une chose qui tout d'un coup se déréalise, on part de choses très concrètes, et en même temps, il y a une chose qui va vraiment vers le fantastique, donc la marionnette, elle permet ça. Et bon, dans le chemin du spectacle, comme on l'a évoqué, quoi, on commence comme ça, pas à pas, on met des petites maquettes, on va reconstituer la nature, on va reconstituer l'image, on va entendre la voix de ses habitants, puisqu'on va la travailler, la redire, et tout d'un coup, il apparaît. Alors, il apparaît pour tous les autres, c'est lui qui apparaît, mais ça pourrait, tout d'un coup, et comme vous dites, on est à l'échelle. Tout le paysage est à l'échelle d'un vrai paysage. Et alors que jusque-là, on a eu des maisons miniatures, etc., il faut la marionnette qui soit à l'échelle, comme si, voilà, on a essayé de tout reconstituer petit à petit. Et on va aller jusqu'à la personne. Et on va pas la jouer, nous. On va pas, encore une fois, réalistement, avoir 80 ans et une dégaine de paysan. On va avoir besoin, encore une fois, d'un tiers de le mettre en forme pour qu'il apparaisse, cet autre habitant de Saint-Félix. Et donc, on avait besoin de la marionnette pour ça. Voilà, ce qui nous touche à ce moment-là, c'est qu'effectivement, la marionnette, elle est à la fois, comme elle est très proche de la mort, elle raconte un peu Lucie, et en même temps, elle raconte cet habitant dont on entend la voix et dont on ne verra jamais le corps, mais dont cette marionnette en est l'image.
Quelque chose reste complètement irrésolu sur la mort de cette jeune femme. Vous mettez en scène une rencontre avec les parents qui acceptent d'avoir une conversation émouvante, surprenante aussi. On est très peu de temps après la mort de leur fille. Cet irrésolu, il n'est pas sans être, comment on pourrait dire, suspicieux. C'est-à-dire qu'il y a plein de pistes qui peuvent nous traverser l'esprit quant à la mort de Lucie. Est-ce qu'elle était trop dissidente? Est-ce qu'elle a vraiment apporté trop de possibilités de changement dans ce petit village? C'est grave, hein, de soulever ces hypothèses-là. Est-ce qu'elle s'est en effet juste laissée empoisonner par une mauvaise huître ou un mauvais nem et mal soignée? Est-ce qu'elle est juste tombée malade? Mais c'est grinçant. Et vous nous laissez avec ça, avec la possibilité que Saint-Félix l'ait tuée.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est... Mais encore une fois, c'est parce que Saint-Félix, c'est pour nous une façon de raconter la société. Et que je ne suis... On n'est pas sans penser que d'une certaine façon, quand même...
La société l'a tuée.
Oui, la société l'a tuée. Et, ou que la société, par exemple, parfois peut vraiment décider de tuer sa jeunesse, de pas lui laisser sa place, de... Voilà, c'est toutes ces hypothèses-là. Ou alors, c'était juste un accident, et puis en fait, c'est un destin personnel, et ça ne tenait qu'à elle, que ça ne fonctionne pas. Ça raconte quand même aussi, d'une certaine façon, un conflit générationnel. Enfin, il y a aussi cette hypothèse-là qui est ouverte, de dire, ok, quelle possibilité on laisse, encore une fois, à des réelles alternatives, à faire autrement, sans avoir l'air d'être... je sais pas, des caricatures de soi-même.
Les jeunes, ça dérape, c'est ça, non?
Oui, il y a cette idée-là. En tout cas, dans ce petit village, il y avait cette idée-là. Ça dérape, ou c'est pas réaliste, ou ça, voilà, c'est utopique, c'est fou, ça va mettre le bazar. Voilà, ces vieilles idées sur la jeunesse, mais qui sont encore quand même très, très prégnante en fait. C'est vraiment difficile, je trouve, aujourd'hui, d'avoir 20 ans dans un climat extrêmement anxiogène, où on va toujours dire que rien n'est possible, que de toute façon c'est la catastrophe, que de toute façon les jeunes, ils sont plus comme ça, ils sont moins comme ça. Enfin, c'est aussi un symptôme pour moi d'un monde qui serait beau, un monde qui aime sa jeunesse, qui n'en a pas peur et qui l'écoute comme étant source d'idées, de choses positives. Et cette enquête nous a révélé que c'était pas du tout ce rapport-là, de fait.
Saint-Félix, ça se joue en ce moment au 104 à Paris, dont vous êtes artiste associé avec la compagnie Élie Châteauret, c'est jusqu'au 23 mars. Et puis vous serez au Théâtre de la Tempête à Paris aussi, mais dans un autre Paris, du 26 mars au 14 avril et le 17 mai au POC à Alfortville.
Est-ce que je peux juste citer mon équipe? L'équipe du spectacle, je voudrais juste dire que c'est Thomas Pondy qui a fait la dramaturgie et la collaboration artistique, Charles Chauvet qui a fait la scénographie, Lucas Lelièvre qui a fait le son, Marie-Hélène Pinon qui a fait la lumière et Lou Simon qui a construit et s'est occupé de la manipulation des marionnettes.
Et j'ai dit tous les comédiennes et les comédiens en début.
ما فين وانا فين كين نفتع وكين دين وقد يا في قلبي.
Ce serait vraiment super un monde qui n'a pas peur de sa jeunesse. Au son, Jean-Guilain Mèche ce soir, à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Merci beaucoup à Anna Baron, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les soirs. Dans un instant, le journal sur France Culture. Restez tranquilles, à demain.
خايف روحي انا موت غريب ما تشوفهم انت وما نشوف حبيبي ما فين وانا فين